Tech & Co, la quotidienne. Best of.
Le débrief de l'actu tech, voilà, jusqu'à 20h. On va s'intéresser à toute l'actualité de ce jour et vous allez voir qu'elle est quand même assez riche. Sur le plateau ce soir, Jérôme Marin est avec nous. Salut Jérôme. Jérôme Marin qui est fondateur de cafetech.fr. Nous avons aussi un autre Jérôme.
Yeah.
C'est Jérôme Colombin. Salut mon Jérôme.
Salut François.
Tout va bien? Jérôme qui est évidemment journaliste, créateur du podcast Monde Numérique. N'hésitez pas à écouter Jérôme, à télécharger sur toutes les plateformes de podcast. Et puis Frédéric Simotel, salut mon Fred.
Bonsoir François, bonsoir à tous.
Voilà, Fred qui a assuré comme une bête hier, comme d'habitude, voilà, tout s'est bien passé.
C'était merveilleux, plein de choses à raconter.
Ouais, enfin, c'est vrai.
On a parlé d'IA, on a parlé des...
Mais l'actu tech ne s'arrête jamais en ce moment, c'est ce qu'on disait avant d'entrer dans ce plateau.
On pourrait même continuer tout l'été à en
parler. Voilà, et attendez, vous avez... attendez, c'est pas terminé, demain soir... Soirée spéciale Apple dans Tech & Co. Keynote, iPhone, John Ternus, plein de choses à vous raconter. Sans doute aussi un iPhone pliant qui devrait être annoncé. Enfin bref, grande soirée à suivre donc à partir de 19h en direct sur BFM Business. Et puis le lendemain, émission spéciale sur l'espace, puisque demain et après-demain se déroule le sommet de l'espace au Grand Palais, et on y sera avec des invités prestigieux, notamment je recevrai l'un des grands patrons de Amazon Léo, vous savez, future constellation de satellites de télécommunications. Il s'appelle Chris Weber, il fait partie véritablement des têtes pensantes de Léo, et nous l'aurons en interview exclusive, ce sera jeudi, et d'autres invités évidemment exceptionnels. Pour débuter, on va s'intéresser à cette bonne nouvelle, c'est Mistral AI qui lève donc 3 milliards de plus ce matin. C'est la levée la plus importante jamais réalisée en Europe, se félicite la pépite française sur ses réseaux sociaux. Elle est désormais valorisée plus de 21 milliards d'euros et c'est encore grâce à ce joli tour de table. Étienne Brack nous explique tout.
Avec notamment Samsung hein, qui participe à ce tour de table. Vous avez Salesforce, ASML également. Au final, ce sont des acteurs qui vont participer à la croissance de Mistral pour la simple et bonne raison que ces fameux 3 milliards d'argent frais vont participer à augmenter la puissance de calcul, à augmenter aujourd'hui les data centers de Mistral. Quand vous regardez la puissance de calcul, l'année prochaine, elle sera d'environ 200 mégawattheures. Objectif 1000 mégawattheures, soit 1 gigawatt d'ici 2030. 1 gigawatt, ça fait quand même la taille d'un réacteur nucléaire hein, en termes de besoins énergétiques. Donc forcément, il y aura besoin de cartes graphiques Nvidia, il y aura besoin de mémoire RAM du côté de chez Samsung pour faire tourner la fameuse intelligence artificielle de Mistral. Il s'agit bien sûr du chat. Quand vous regardez ce tour de table, aujourd'hui, il permet à la société d'être valorisée 21 milliards d'euros contre 11 milliards il y a un an. Hein, donc vous avez une société qui a pris plus de 10 milliards de valorisation en l'espace d'un an. Alors 21 milliards, ça peut paraître beaucoup. C'est vrai que pour la France, pour l'Europe, c'est bien. Hein, c'est de loin la première société. Mais quand on se compare malheureusement aux États-Unis, il y a de quoi se désoler. Hein, quand on regarde, souvenez-vous, l'introduction en bourse de XEI, hein, la société de Elon Musk au mois de juin, ou encore Anthropic, et notamment la maison mère de Claude qui est valorisée plus de 1000 milliards de dollars.
Voilà, donc les milliards coulent à flot. Alors ce qui est intéressant, c'est que d'habitude c'était plutôt aux US et ça fait plaisir de voir que, alors on n'est pas à la même échelle, ouais. C'est clair. Hein, là on n'est pas en dizaines, centaines, on a même entendu des milliers de milliards de dollars. Là on est, ben voilà, dans des unités, mais bon écoutez, c'est mieux que rien. Et évidemment on va en parler. Jérôme, tu as suivi un petit peu tout cela, j'imagine.
Ouais.
On se rend compte que Mistral, malgré tout, alors même si leur stratégie a évolué depuis le tout début, hein, on voit que maintenant ça va être une boîte un peu qui veut proposer en fait un service complet lié à l'intelligence artificielle avec data center, etc., etc. Ça a l'air de plutôt réussir finalement.
Mais je pense que c'est exactement ça. C'est plus seulement une start-up qui se positionne sur ce qu'on appelle les modèles frontières et qui essaye du coup de rivaliser avec d'autres qui sont très très en avance. Mais leur démarche est super intéressante parce que ils vont vraiment sur l'infrastructure. 1 gigawatt, c'est l'objectif en 2030, puisqu'on compte les data centers en gigawatts.
Ouais, donc la puissance électrique.
Et ça, c'est vrai que c'est une démarche a priori, qu'on peut juger comme vraiment intéressante, intelligente. Et Arthur Mensch, ça fait un peu écho à l'audition d'Arthur Mensch à l'Assemblée nationale, où il avait brillamment expliqué tout ça, où il avait expliqué que l'IA aujourd'hui, c'était une question d'infrastructure. L'IA elle-même est une infrastructure, elle a besoin d'infrastructures et d'énergie surtout pour fonctionner. L'enjeu, c'est la quête de l'énergie, et Mistral essaie de se positionner pour être opérateur de cette force de frappe. Il fera tourner les modèles de Mistral, mais pas seulement, sans doute d'autres aussi.
Oui, bien sûr. Ouais.
Mais en tout cas, ils seront là, ils seront incontournables. Donc, a priori, ça paraît vraiment, une bonne nouvelle, deux, une démarche super brillante, super intelligente.
Voilà, et l'un des acteurs de cette levée, Jérôme Marin, c'est Samsung.
Exactement.
C'est ça qui est intéressant. Alors, évidemment, tout ça coïncide avec l'arrivée du président sud-coréen à Paris. Mais Samsung... Et maintenant, on va dire, dans l'ADN de Mistral.
Oui, et Samsung qui est aussi intéressé, parce que si on construit des data centers, il faut acheter des puces mémoire. Et qui vend des puces mémoire, c'est Samsung aussi. Donc, l'un dans l'autre, ils vont quand même récupérer, un peu comme quand Nvidia investit dans OpenAI ou dans Anthropic, ils vont récupérer aussi leur mise. Moi, je ne suis pas aussi positif que l'autre Jérôme.
C'est bien, on a le Jérôme positif et le Jérôme un peu moins.
Alors, autant, c'est très bien qu'il lève 3 milliards, et comme on l'a dit, c'est vraiment, pour une entreprise européenne, c'est du jamais vu. Donc,
21 milliards de valorisation.
Bien sûr, mais je trouve que c'est un peu par défaut, finalement. C'est un peu par défaut parce qu'on se rend compte que Mistral, il n'y a plus qu'une entreprise européenne qui est capable de rivaliser, alors même pas rivaliser, parce que rivaliser c'est un bon grand mot, avec les groupes, les modèles américains et les modèles chinois open source. Et donc finalement, l'argent qui est destiné à l'Europe, il va tout sur Mistral. Est-ce que ça veut dire que Mistral marche très bien? Je suis pas sûr. Aujourd'hui, les modèles de Mistral, ils sont, ça fait quand même longtemps qu'ils n'ont pas sorti un modèle qui est au niveau de la concurrence. Ils sont débordés sur les prix par les modèles chinois qui sont 10 fois moins chers, qui sont même parfois plus performants. Et je regardais tout à l'heure, après je te laisse la parole, sur OpenRouter, qui est en fait une plateforme où on peut aller chercher les API. Je suis descendu pour retrouver le premier modèle de Mistral.
Ils vont peut-être le racheter
par Stripe. Il était en 55e position, le premier modèle de Mistral le plus populaire. Donc, autant il y a 2 ans, 3 ans, quand ils sont lancés, ils étaient vraiment bons. Ils avaient des modèles qui étaient pas très loin de ceux d'OpenAI.
Qui tenaient la dragée haute au plus performant.
Autant là, depuis 2 ans, 3 ans, on a l'impression qu'ils se sont fait dépasser, par les groupes américains qui ont tellement d'argent, qui peuvent investir beaucoup plus, et surtout par les groupes chinois. Qui ont alors eux ils ont aussi de l'argent, mais ils ont surtout, comme ils ont pas de puces, et bien ils ont réfléchi différemment à comment développer des modèles. Et ces groupes chinois, finalement, ils sont en train de manger le gâteau qui était le gâteau de Mistral, et on sait pas trop où est Mistral aujourd'hui. Pour moi, Mistral, ça reste une boîte qui la seule vraiment grosse carte qu'il a à faire jouer, c'est la carte de la souveraineté. Donc on va voir des entreprises, on va voir des administrations, on va dire c'est une IA française, et venez chez nous plutôt que d'aller chez les Américains ou les Chinois.
Et puis en plus, Fred, c'est pas...
Vas-y, Jérôme. Juste un mot pour répondre à Jérôme. Je suis d'accord avec toi, ils sont pas très forts sur les modèles, mais justement, c'est bien ce que je dis, c'est pour ça qu'ils se positionnent ailleurs, en quelque sorte. Donc c'est pas...
Pour moi, ils se positionnent... D'ailleurs, Arthur Mensch le dit un peu... je sais pas s'il le dit clairement ou s'il le dit entre les lignes dans une interview qu'il a donnée aux Échos ce matin. En gros, leurs deux axes de développement, c'est une IA intégrée dans des applications aujourd'hui, et développement d'applications, IA intégrée dans les entreprises. C'est ce qu'il fait aujourd'hui. Ils ont signé, lorsqu'il y a eu le grand événement Mistral au printemps, on a vu le patron de BM, le patron d'Airbus. Nous-mêmes, notre actionnaire CMA CGM est un gros client de Mistral. Enfin voilà, le pli est donné, il travaille avec SML, avec ASML, avec cet échange, tout ça. Donc, c'est première chose. Et la deuxième, c'est ils ont mis en place, enfin, c'est ce qu'ils veulent mettre en place, un cloud IA dans lequel on va pouvoir chercher des modèles. Alors, des modèles de Mistral, mais aussi des modèles chinois, où on pourra aller chercher des tokens, où on pourra aller chercher des, tout un tas de choses. Je cherchais autre chose sur des agents. Enfin voilà, ils sont sur ces deux modèles-là aujourd'hui. Et effectivement, ils jouent sur la case souveraineté, parce que aujourd'hui, je m'amusais tout à l'heure à regarder un peu les grandes dates de l'IA, parce qu'on va bientôt fêter les 4 ans déjà. Vous rendez compte, 4 ans de ChatGPT. Enfin, quand on est en train de dire il faut 5 ans pour bâtir un data center, tout ça, bon, c'est oui, vous avez vu à quelle vitesse ça passe. Et je me disais, en fait, sur l'IA générative, on a eu novembre 2022, l'IA générative, donc ce choc qu'on a tous vécu, bon, qui s'est prolongé ensuite. On a eu un deuxième choc pour moi, c'est DeepSeek. Quand DeepSeek, l'effet Sputnik, DeepSeek, on se dit, flûte, les Chinois peuvent faire aussi bien, moins cher, etc. Et bien, pour moi, le troisième, c'est Mythos. C'est quand tout d'un coup, les Américains ont fermé les robinets. Et ça, je pense que le cheminement des entreprises européennes, bah, il s'est fait tout ça. L'IA générative, il faut y aller. Les Chinois, tiens, il faut qu'on les regarde. Et puis tout d'un coup, la souveraineté, on dit, ah, tiens, si les Américains coupe le robinet, il faut qu'on ait d'autres alternatives. Et Mistral a raison de jouer sur ce point-là. En plus, en France, on produit beaucoup d'électricité. Alors, on a encore du mal à la distribuer aux bons endroits, mais on la produit bien, on en produit suffisamment, donc ça, ils peuvent en profiter. Arthur Menge, j'avais dit, nous, on est là pour transformer l'énergie en token. Mmh. Donc voilà, après, et je pense qu'il ne faut pas s'arrêter non plus aux valorisations, on n'arrivera jamais aux 600 milliards. Mais après, oui, il y a des efforts à faire dans la qualité des modèles.
Et tu vois, je me demande si on ne peut même pas aller plus loin en se disant qu'ils sont déjà, eux, presque dans le coup d'après. Ils ont raté le premier, bon d'accord, comme d'habitude, hein, mais on arrive après et il y a peut-être une autre carte à jouer. Finalement, c'est un peu la stratégie aussi de SpaceX AI. C'est, on fait de la force de calcul, on achète les cartes graphiques, parce que c'est ça, hein, tout l'argent va servir, va repartir chez Nvidia après. Ça va être pour acheter des cartes graphiques.
Et un peu chez Samsung.
Mais moi, tu vois, il y a quelque chose que j'aime bien dans toujours cette interview donnée ce matin, de Arthur Mensch, il dit, mais vous travaillez sur quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, on travaille sur notre développement commercial. Bah oui, enfin tu vois quelque chose quand les OpenAI aussi ils nous disent on veut mais là il le dit clairement développement commercial, il faut et pour ça il nous faut plus de capacités de calcul parce qu'on peut avoir c'est là où le danger est pour eux à mon avis, c'est de pas fournir assez vite de la capacité de calcul et de se faire déborder. Pour moi c'est ça. Et après avec c'est assez habile de jouer avec la Corée aussi parce que je dis toujours la Corée d'un point de vue géopolitique, Corée leur environnement est pas terrible hein, Corée du Nord, Chine, le Japon, ils s'aiment pas trop.
Ça peut être un bon partenaire.
Avoir cet allié occidental qui est l'Europe / la France, c'est plutôt pas mal. Non, c'est intelligemment joué en tout cas.
Voilà. Écoutez, on va suivre. Évidemment, on a tout dit. Tu voulais rajouter quelque chose?
Un truc juste pour donner des chiffres. Parce que
il n'y a pas que des chiffres. On n'a pas dit. On a parlé open source. Voilà, ils sont très open source aussi.
Oui, un peu de moins en moins quand même. Juste pour donner un chiffre pour quantifier ce que représente aujourd'hui Mistral. Mistral veut faire. En fin d'année, il tape pour un chiffre d'affaires de 80 millions d'euros, en décembre. C'est leur objectif, c'est d'arriver à 80 millions d'euros de chiffre d'affaires mensuel. Anthropique, ils sont à 5 milliards par mois en août. Donc, c'est juste pour donner quand même
le ratio.
Et si on revient il y a 2 ou 3 ans, et si on t'avait dit il y a 2 ou 3 ans, Mistral, ils seront, alors je sais pas, je n'ai même pas fait le calcul, mais 60 fois plus petits qu'Anthropique, tu ne l'aurais pas cru, je pense. Et je pense que là.
Non, mais est-ce qu'on aurait pu imaginer il y a 3 ans ou 4 ans qu'ils feraient en décembre 2026 80 millions d'euros de chiffre d'affaires, tu vois?
Ouais.
C'est ça aussi la question. On peut se poser la question dans l'autre sens.
C'est surtout l'écart qui m'interpelle, en fait. C'est qu'ils étaient pas très loin.
Non.
Et ils se sont
fait distancer. Ils se sont fait distancer.
Mais quand les capacités de calcul vont commencer à se monter, je pense que là, parce que c'est là où ils vont faire de l'argent. C'est vraiment dans les capacités de calcul qu'ils vont fournir. C'est pas tellement pour les services qu'ils offrent aux entreprises. Ouais. Et il y a une autre chose, moi, que je regrette. Alors, mais ça dépend pas de Mistral. Ça dépend plus des politiques. C'est qu'on n'a pas l'Europe derrière. Ça reste un acteur français qui se développe à l'international. Super, machin. Mais c'est pas un acteur européen. J'ai pas entendu le chancelier, le patron du numérique allemand, le patron du numérique espagnol qui dit, Mistral, c'est super. Non, au contraire, ils sont en train de se dire, flûte, il est français, on n'a pas ça. Ils sont sans doute en train de dire, on n'a pas ça chez nous. Et ça, c'est un peu regrettable qu'on n'arrive pas à pousser.
Surtout qu'il faudrait peut-être plus de capitaux européens. Les politiques, ça va, je pense qu'on en a assez.
Non, mais les décisions politiques de pousser tout ça, tu vois. Ouais. Quand Airbus s'est créé.
Mais parce qu'il y a toujours cette concurrence, malgré tout.
Les gens sont assis autour de la table, on dit, les Espagnols vont faire ça, les Allemands. Voilà.
C'est super Airbus, mais c'était une autre époque.
Oui, mais c'était une autre époque, mais n'empêche, il y a un moment, ils se sont assis, ils ont dit, bon voilà, on va se répartir un peu le gâteau et on va y aller. Et nous, aujourd'hui, l'impression que tout le monde est un peu en train de tirer. On pourrait dire, à l'Allemagne des data centers, à nous, la puissance du logiciel, à l'Espagne, on pourrait essayer un peu de peut-être de répartir ça.
Eh oui, Fred Simotel est comme Mistral, il décoiffe.
Voilà.
J'aimerais maintenant qu'on reste un petit peu dans ce sujet de l'Europe, avec cette initiative, franchement, que moi j'ai pas vu arriver, cette initiative des, on va dire, quelques-uns des principaux opérateurs télécoms européens, Orange, Deutsche Telekom, Vodafone et Telefonica, qui discutent d'une candidature commune. Pour faire quoi? Alors peut-être un anti-Starlink européen, on ne sait pas trop parce que finalement on a eu cette news, mais il n'y a pas énormément d'infos. On sait qu'ils veulent récupérer une partie de la bande européenne des 2 gigas qui permet en fait d'émettre d'un satellite basse orbite jusqu'à un téléphone. Vous savez que c'est maintenant la prochaine bataille en fait.
Le direct to device.
Le direct to device. Parce que les licences actuelles expirent en mai 2027 et on a l'impression que Orange, donc Deutsche Telekom et Vodafone et Telefonica veulent se positionner pour essayer de racheter ces licences. Hein. Alors, on n'a que ça comme information. Il n'y a pas eu d'annonce de constellation, parce que après il faut investir des milliards pour lancer une constellation. On ne sait pas où on en est. Et puis, il y a aussi des choses qui sont un peu paradoxales, parce que vous prenez Deutsche Telekom, qui fait partie de ce consortium, en fait, ils travaillent déjà avec Starlink. Donc, il y a plein de questions, mais je voulais avoir votre point de vue là-dessus. Est-ce que c'est un réveil aussi européen parce qu'on se rend compte qu'il ne faut pas qu'on laisse Starlink et Léo tout seuls, il faut qu'on ait une initiative européenne, et Iris Carré ne suffira sans doute pas. Jérôme, qu'est-ce que tu en penses?
Alors, juste pour préciser, ça, en fait, ça s'intègre dans un appel d'offres qui va être mis en place par la Commission européenne pour justement attribuer ces fréquences. Un tiers des fréquences iront justement à Iris Carré, qui est le projet européen de, de Starlink, de constellation par satellite.
On en parlera jeudi d'ailleurs.
Avec et puis le reste sera réparti principalement avec des acteurs européens, des nouveaux entrants et puis les opérateurs télécoms. Donc ça, c'est vraiment le cas. Moi, je suis assez surpris de cette annonce parce que en mai, j'ai discuté avec un très haut responsable de l'un de ces opérateurs, donc je vous laisse deviner lequel, qui me dit, je l'ai interrogé sur cette question et il m'a dit... et il m'a dit, en fait, ça ne sert absolument à rien. Parce qu'aujourd'hui, alors autant aux États-Unis, il y a beaucoup de zones blanches.
Qu'est-ce qui sert à rien? Le direct to
le direct sur téléphone.
Comment on peut dire ça?
Alors, je t'explique ce qui m'arrive.
Vas-y.
Ça ne sert pas à grand-chose par rapport aux frais que ça engage, en fait. Autant aux États-Unis, tu as beaucoup de zones blanches, et donc là, tu as une grande population, une grande partie du pays qui n'est pas reliée à Internet, Internet mobile. Autant en France, la zone de couverture est très forte sur la 5G. On est à plus de 80, je ne sais même pas combien, plus de 95%, je pense. Donc, finalement, est-ce que ça vaut le coup de dépenser des milliards, parce que c'est des milliards d'euros pour lancer des satellites, et toujours, il faut toujours relancer les satellites parce qu'ils ont une durée de vie limitée, pour finalement un nombre de cas d'usage assez limité. Donc ça, c'est la position qu'ils me disaient. Donc soit je suis assez surpris qu'ils s'arrangent à ça. Après, est-ce que on ne sait pas exactement ce qu'ils vont faire aussi. Est-ce que c'est aussi défensif? Parce que voilà, on essaie d'éviter que Starlink, et parce qu'on se dit peut-être qu'un jour ça sera obligatoire de l'avoir dans son offre mobile pour que les clients viennent. Voilà, je ne sais pas si c'est très offensif. Je pense que c'est plus quelque chose de défensif au cas où ils en aient besoin.
Ouais, je pense que c'est plus une réponse un peu défensive qu'on t'a faite que la vérité, parce que oui, c'est vrai qu'on a une excellente couverture, qu'elle soit mobile ou même fibre. Hein, on a investi des dizaines de milliards dans on va dire l'installation de la fibre en France, mais malgré tout, les réseaux mobiles saturent au bout d'un moment. Hein, alors, il faut attendre des années avant de renouveler tout cela. Et puis surtout, il y a des zones d'ombre encore. Oui. Tu vas au fin fond de la Creuse ou tu vas dans certains coins en Corse, il n'y a pas de réseau.
Bien sûr. Mais il faut quand même dire
Et puis il y a aussi des questions de perte de souveraineté. Regarde Air France qui a été obligé de signer avec Starlink pour offrir un.
Ouais, mais là, ça, c'est différent parce que c'est pas du direct device.
C'est pas du direct device.
Mais par exemple, enfin, ce qu'il faut dire aussi, c'est que ces satellites, ils ne donnent pas de la 5G. Aujourd'hui, ça donne de la 2G. Donc, tu peux envoyer des textos, tu peux faire des coups de téléphone.
Oui, mais ça, c'est la première étape. Mais à terme, on aura de la data.
Mais en fait, ça demande beaucoup d'investissement. Et c'est pour ça que... Et est-ce que ça vaut le coup pour la France?
Mais c'est pour ça que cette alliance entre ces opérateurs, le but, c'est quand même de mutualiser.
Bien sûr, bien sûr.
Faut pas, c'est pas, enfin, et de répondre à Starlink.
Oui, bien sûr.
Mais en mutualisant leurs coûts, ils se sont dit bon là, on a parce qu'ils ont un vrai retard commercial de déploiement et tout ça. Enfin, on le sait tous, on parle suffisamment de tout ça. Moi, je pense qu'il faut quand même bouger parce que quand on entend, on en a parlé il y a une dizaine de jours ici, Elon Musk qui a racheté un petit bout de territoire, enfin qui veut s'installer dans un petit, il a pas racheté, mais il a négocié avec la Louisiane. Pour 5% du territoire de la Louisiane, pour mettre des bases de lancement, un peu comme dans les films de science-fiction, là, 30 fusées par jour pour envoyer ces satellites, du stockage, des data centers et tout ça. On sent qu'il se passe quelque chose aujourd'hui. C'est un troisième univers numérique quand même, l'espace. Et il faut qu'on y soit. Les satellites, c'est un premier moyen d'y être. Après, on y sera peut-être avec des vols habités, des data centers et tout ça. Mais en tout cas, je pense que c'est important qu'on y soit.
Et puis, c'est une redondance, tu vois, technologique. C'est-à-dire que demain, je sais pas moi, le réseau mobile tombe en panne, bah tu peux switcher facilement et avoir un propre réseau souverain par le satellite, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, si on n'a pas ça, bah t'es obligé de faire appel à Starlink ou même à Léo. Parce que Iris Carré, rappelons-le, qui est la réponse européenne, est un réseau qui sera beaucoup moins ambitieux, qui sera réservé aux États et aux entreprises et pas au grand public.
Et j'avais cru comprendre que justement, avec cet accord, ils pourraient intégrer Iris Carré.
Je pense que c'est deux choses différentes.
Ouais. Ah oui, ce serait vraiment, ils feraient cavalier seul en fait.
Ce qui m'inquiète aussi un petit peu dans cette alliance, c'est la réaction des opérateurs américains. Tu disais Starlink avec Deutsche Telekom, mais voilà, on a quand même Orange, le premier. Ils ont des liens avec des opérateurs américains. Je me demande comment tout ça va se goupiller. Après, on est toujours en train de dire il faut de la souveraineté. Tout d'un coup, on a trois acteurs qui disent écoutez les gars, là, faut qu'on avance. Je ne sais pas si vous voulez soutenir, mais en tout cas, saluons au moins cette initiative.
Non, je veux juste dire que Starlink aura quand même beaucoup de mal à s'installer en Europe, puisque les fréquences qui seront attribuées pour Starlink, enfin, pour les acteurs non européens, seront très faibles, en fait. Donc, il y aura, si Starlink récupère des fréquences, elles seront pas importantes, en fait. Donc, ça va être compliqué, peut-être, pour lui de lancer ce direct sur to device, comme il veut le faire aux États-Unis, notamment.
Et puis là, ils sont tout seuls et ils agissent un peu comme des cow-boys. Hein. C'est eux qui ont. Tu sais, souvent, quand tu es dans l'espace, c'est le.
C'est le premier arrivé.
Premier servi.
Ouais, c'est vrai.
Là, et d'ailleurs, quand on discute avec des gens de Telsat, ils disent, ben voilà, nous, quand on passe au-dessus en dessous d'un satellite ami, on éteint notre satellite parce que, voilà, le temps du passage. Starlink, ils s'en fichent complètement. Hein. Ça déboule.
Ça envoie du gigabit, monsieur. Voilà. En tout cas, très intéressant tout cela. On en parlera évidemment jeudi aussi à l'occasion du sommet de l'espace où Tech & Co vous proposera une émission spéciale. Dans l'actu, il y a aussi ce Reactive. Je ne sais pas si vous avez suivi. C'est assez intéressant. Reactive, c'est réponse, le RE de donc Reactive, action interministérielle et acte, et puis violation de données, c'est réactive. Voilà, il y a un gars qui a réfléchi quand même. Je pense que
action réaction.
C'est ça. J'espère qu'il a pas pris trop d'argent pour ça quand même. Et évidemment, cette réponse a été créée après la succession d'attaques qu'on a connues cet été visant l'État, notamment le fisc, qu'on s'en souvient. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'en cas d'attaque d'un ministère, l'ANSSI pourra mobiliser immédiatement ses experts et elle pourra aussi imposer certaines mesures au ministère. Donc on a l'impression que l'ANSSI a un petit peu plus de prérogatives. Ouais. C'est ça, Jérôme, hein, j'ai pu comprendre.
Oui, moi j'ai compris ça aussi, parce que l'ANSSI intervient déjà quand il y a un problème sur les grandes organisations étatiques ou ce qu'on appelle les OIV, les organismes d'importance vitale, qui peut comprendre d'ailleurs des entreprises privées. Mais en l'occurrence, là, c'est que si on était confronté à nouveau à une situation comme cet été avec l'attaque du service des impôts, non seulement ils donnent des conseils, mais ils vont carrément prendre la main. Ils vont piloter la défense. Ouais. Si c'est interministériel, ce sera regroupé également au sein d'un poste de pilotage de l'ANSSI. C'est plutôt pas mal. Ça devrait pouvoir apporter un peu de souplesse et peut-être surtout de réactivité pour éviter que ce genre d'incident.
Et de coordination peut-être aussi.
Et de coordination.
Centralisation de communication.
Et puis avec des prérogatives et visiblement avec même des la possibilité d'imposer des actions.
C'est ce qui a manqué. Tout le monde s'est moqué de l'ANSSI quand il y a eu. Alors, c'était pas pour la DGFiP, mais c'était avant l'été, souvenez-vous, c'était l'ANTS.
Les cartes grises, etc.
Où tout le monde a dit oh là là, et puis tout le monde tombait à rare concis sur Vincent Strebel, le patron de l'ANSSI, toutes ses équipes, mais il pouvait pas agir. Lui, il pouvait consulter, recommander, etc. Et je pense que c'est ce qu'il a dit quand il était dans le bureau du Premier ministre. Il a dit mais moi, je peux recommander tout ça, je peux faire ce que je veux, mais
il a pas la main.
J'ai pas la main. Ah, donc là, ça va donner une réponse. Alors, une réponse concrète aujourd'hui, ils vont avoir un peu plus d'autorité, centralisation de la communication. Alors attention à ce que ce ne soit pas juste une rustine, quoi, de dire juste alors on voit ça pour l'instant, on va voir ce que ça donne, donc il faut faire attention, mais il est temps qu'on bouge dans ce domaine parce que là ça devient trop, quoi, la DGFiP, déjà la NTS, les permis de conduire, les passeports, là la DGFiP, c'est pas assez sécurisé et tout ça, hein, je pourrais dire deux mots à ce sujet-là, mais.
Jérôme.
Non, je n'ai pas grand-chose à ajouter. Je pense que c'est une bonne idée. Et en tout cas, ça va dans le bon sens. Après, à voir si ça va être efficace ou pas, ça, l'avenir le dira. De toute façon, ce qui est sûr, c'est que les attaques, elles vont ne faire qu'augmenter. Donc, autant essayer de réagir en amont le plus tôt possible.
Est-ce que c'est la bonne réponse ? Est-ce qu'on a mis les moyens ? Parce que visiblement, il n'y aura pas de nouvelle équipe. Hein. C'est simplement que l'ANSSI va avoir plus d'autorité et qui va prendre un peu le pas sur les ministères, mais est-ce que ça va suffire?
C'est déjà pas mal.
Mais c'est surtout a posteriori, hein, c'est pas pour éviter les attaques, c'est pour réagir aux attaques. Ouais.
C'est en temps de crise, au moment où ça se passe ou au moment où on le découvre.
Mais tu sais, il faut quand même voir. On a regardé ça pour l'émission Tech & Co Business. Les contrôles en interne par la DGFiP. Contrôles en interne. Donc, ils gèrent quand même 1200 milliards d'euros de flux financiers. La DGFiP, on imagine qu'ils sont dans un cadre strict de gouvernance. Regardez. Alors, il y a le contrôle interne financier. Il y a le contrôle de gestion. Il y a la délégation à l'audit interne. Il y a tous les contrôles externes avec la Cour des comptes et tout ça. Et là, toutes les failles de sécurité sont passées, tous ces contrôles-là. Et c'est là où l'ANSSI va arriver en demandant un peu des...
Oui, des comptes. Et
voilà. Des comptes, tu vois. Moi, j'ai trouvé incroyable de voir la directrice de la DGFiP dire « Oh là là, comme tout le monde, on est attaqué, machin. Oui, on a peut-être... » Mais leurs organes de contrôle, c'est dingue. Et alors, au même moment, tu as les 160 plateformes de facturation électronique qui entrent en depuis le 1er septembre. Ouais, ouais. Qu'est-ce qui les contrôle, ces 160 plateformes? Je vous donne la mine, c'est la DGFiP. Non mais là, il y a un moment, et je comprends que Sébastien Lecornu, avec le patron de l'ANSSI, disent « Bon, allez, on va commencer à parler entre professionnels. C'est là où il faut un vrai CTO de l'État au sein de la... » Bon, il y a la DINU, mais là, il faut vraiment taper du poing sur la table et dire « Les gars, ceux qui font les contrôles, là, tout ça, c'est pas possible. »
Mais en plus, la menace a un peu changé. Tu disais « Il faudrait qu'on parle de ce qui s'est passé. » C'est vrai que cette histoire, on pourrait y revenir plein de fois.
C'est un jeune de 18 ans. Enfin,
tu vois, c'est d'une part, et puis, il a pas... C'est pas une faille de sécurité, c'est pas un bug, hein, c'est pas un bug logiciel, c'est une usurpation d'identifiant. Oui. Donc c'est bien que
et la NTS, c'était juste on allait sur l'adresse. Moi, on m'a fait la démo. On allait sur l'adresse du site NTS et on changeait des petits chiffres. Et puis au bout d'un moment, on changeait un chiffre, on tombait sur des fiches. Et puis on change.
Ça, c'est plutôt une faille.
Enfin, tu vois, c'est des choses. C'est pas 80%, ça pourrait être résolu grâce à un peu d'hygiène de.
Ouais, c'est clair. Mais il paraît qu'il y a eu une explosion en fait d'un laisser-aller pendant le Covid, parce qu'évidemment tout le monde était en télétravail et on se rend pas compte que finalement le télétravail, c'est la porte en fait à n'importe quoi, parce que souvent tu peux accéder à des informations, on va dire sensibles, depuis ton PC en Wi-Fi. Et tu n'as pas la même hygiène numérique.
Ça fait 5 ans.
Non, mais bien sûr.
Les hôpitaux qui ont été bloqués.
Fred, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais on avait déjà des signes avant-coureurs. En fait.
Ouais, mais tu peux faire du télétravail sur des postes dédiés, etc. Et avoir des bonnes pratiques, sécurisées. Et puis il y a aussi
entre le téléphone.
Il y a aussi la question de ce qui s'est passé encore pour y revenir sur la DGFiP, c'est que donc il s'est introduit de manière normal, en fait, comme un utilisateur, mais il a commencé à pomper comme un fou des données, et ça n'a pas été détecté à temps. Ça aussi, c'est un manque de sécurité, c'est-à-dire qu'il y avait une caméra. En gros, c'est comme si on avait un hangar, et puis la caméra n'était pas branchée.
Et là, l'ANSSI, ça aidera rien, en fait.
Non.
Parce qu'elle arrivera trop tard.
Ouais.
Là, oui. Oui. Enfin, non, si
non, parce que comme ça n'a pas été détecté.
Si on s'en rend compte plus tôt, oui.
Et si c'est pas détecté, l'ANSSI, elle ne servira rien.
Bien sûr.
Pourquoi on va, revenons au fax? Voilà, hein, un bon fax, et c'est réglé. Allez, 19h30, toujours avec Jérôme Marin de Café Tech. Je vous invite évidemment à vous abonner à sa newsletter très régulière, où tu traites de toute l'actualité avec beaucoup d'analyses. Jérôme Colombin, journaliste, vous avez son podcast Le Monde Numérique, et Frédéric Simotel, journaliste à BFM Business. On revient après cette petite pause et on va parler de Xpeng, un constructeur de voitures qui s'intéresse aux robots humanoïdes. À tout de suite.
Tech & Co, la quotidienne, best of.
Voilà, 19h32, le retour de Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Une belle soirée, merci d'être là. On est ensemble chaque soir, du lundi au jeudi, 19h-20h30. Jérôme Marin est avec nous, un autre Jérôme Colombin et Frédéric Simotel. J'aimerais qu'on parle maintenant de nos amis chinois, avec une marque qu'on connaît très peu en France, mais qui a énormément d'ambition. Il s'agit de Xpeng, parce que Xpeng vient officiellement de mettre en service sa ligne de production, non pas de voitures, parce que on les attend là, hein. Ils font des trucs incroyables, Xpeng, des voitures. Ils ont sorti, je crois, il y a un an ou deux, une espèce de van avec à l'intérieur un hélicoptère. Alors vous dites, ok, bon, c'est bidon. Non, parce que en fait, il y a des gens qui pouvaient précommander ce type d'appareil. Alors évidemment qu'en Chine, parce qu'on n'a pas le droit de piloter ce type de choses en dehors de la Chine, mais ça existe.
Ouais. CES 2025, c'était des images de synthèse que l'on voyait sur leur site à Las Vegas. CES 2026, non, c'était de vraies images.
C'est ça.
À filmer.
Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte que ces constructeurs automobiles, eh bien, ne veulent pas se cantonner à la construction de véhicules. Ils veulent aussi se lancer au robot. Cela dit, Elon Musk, Tesla, c'est pareil. On peut imaginer que BYD doit avoir aussi dans sa mallette un truc équivalent. Xiaomi, qui fabrique des véhicules, va aussi fabriquer des robots.
Ils font des téléphones aussi à la base.
Ils font aussi des téléphones à la base. Mais c'est intéressant de voir...
C'est une espèce de filiation logique.
Ouais.
Téléphone, voiture, robot, en fait.
Mais oui. Et est-ce qu'on serait pas à cet instant du début de l'histoire où finalement... Eh bien voilà, quand on est bon en industrie automobile, ben on va pouvoir fabriquer aussi des robots.
Et ça, avec l'histoire d'XPeng, ce qui est intéressant, c'est que c'est le premier robot qui a été vraiment fabriqué sur leur chaîne, leur usine dédiée à la fabrication de robots. D'ailleurs, il s'est levé tout seul après avoir été assemblé.
C'est incroyable, oui. Après, il est sorti de l'usine en marchant et tout, c'est génial.
Frankenstein.
Il y a des pièces qui sont entrées au début de la chaîne, et à la sortie, il y a une créature qui s'est levée comme ça et qui était, on va pas dire vivante, mais voilà. Mais en fait, bon, c'est un peu une démonstration de force, mais qui est intéressante pour dire, nous, on est prêts industriellement à fabriquer des robots humanoïdes. C'est de ça dont on parle. Après, on ne sait pas. Donc, il y en a un. On ne sait pas du tout. Ils n'ont pas d'objectif de production. Ils n'ont pas dit on va en produire.
C'est pas le coup non plus.
Après, avoir une usine, c'est pas avoir un marché. Hein.
Non, exactement, tout à fait. Mais c'est vraiment, on est prêt, on est en ordre de bataille. Mais bon, il y a encore une bonne partie du chemin à parcourir quand même.
Jérôme.
Ouais. Non, je pense que la question, alors autant que sur la partie mécanique, je pense que les robots, on l'a vu. Je ne sais pas si vous avez vu les Jeux Olympiques de robots là en Chine aussi.
C'était incroyable.
Autant sur cette partie mécanique, les avancées sont assez fortes et c'est au point. Et par contre, ce qui pêche encore, c'est la partie intelligence en
fait.
Et là, ils n'ont pas forcément parlé de ce que j'ai cru comprendre. Ça va être au départ, ils vont être déployés dans les magasins pour faire de l'accueil, des choses comme ça. Donc, ça, on reste très loin du fantasme du robot humanoïde qui va vous aider dans vos tâches quotidiennes. Et là, il y a beaucoup de choses à faire en fait, et beaucoup de choses. Et surtout, c'est de l'apprentissage. Donc, il faut que les robots soient dans des maisons pour qu'ils apprennent à se repérer, à passer l'aspirateur, à faire la vaisselle. Et donc ça va prendre beaucoup de temps.
Mais il y a au moins une brique cet univers qui est prête. C'est la partie électromobilité finalement. Mmh. Enfin, je sais pas comment on dit, mais toute la partie mécanique.
Ouais. Non, mais mécatronique.
Je pense qu'en dans des entrepôts par exemple, c'est assez facile puisque les univers sont plus contrôlés que dans un domicile. Ça pourrait être déployé plus rapidement. Après avoir la forme, c'est toujours la meilleure parce que les robots humanoïdes, c'est pas forcément la meilleure forme. C'est un peu le fantasme, mais c'est pas forcément ce qui est le plus efficace dans des entrepôts.
On l'a vu chez Wondercraft avec Renault, les histoires de pneus et tout ça. Ils vont commencer à en produire.
Là, ça prouve que c'est le bon form factor. Ouais. Là.
Mais pour moi, pour l'instant, ça reste vraiment au niveau d'XPeng. Ce qu'ils veulent montrer, c'est une épreuve de force pour XPeng qui veut montrer alors à la fois qu'ils peuvent passer du prototype à l'industrialisation. Ils ont leur modèle, il s'appelle Iron, je crois, que ça existe. Mm-hmm. Ça marque aussi, toujours pareil, cette avancée des Chinois dans la robotique. Tu parlais des Jeux Olympiques. On est en train de se prendre, on s'est pris la voiture électrique, on est en train de se prendre la Chine aussi. Petit coup de pression pour Tesla. Et puis maintenant, tout le travail à faire, c'est faire de la physical AI, la chaire à Jensen Huang, qui en parle tout le temps. Et là, on va attendre ce que va donner XPeng. Maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, une usine, c'est pas encore un marché.
Mais ils sont prêts.
On sait pas le prix non plus.
Pardon ?
On sait pas le prix non plus.
Non,
de prix de vente.
Non, mais je trouve intéressant de voir que finalement il n'y a pas qu'XPeng qui est dans ce domaine-là. C'est-à-dire que Tesla aussi, on le disait tout à l'heure, que Xiaomi. Mmh. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu fabriques une voiture, il faut que tu te prépares à fabriquer aussi des robots parce que ça nécessite, un savoir-faire technologique qui est peut-être assez similaire finalement, et ça. Mais quand le cerveau arrivera, finalement, on le téléchargera sur le robot et puis ça marchera. C'est ça qui est intéressant.
En tout cas, ça prouve que le robot humanoïde sort du labo et du centre de recherche.
Oui.
Et c'est ça le truc, c'est que maintenant, l'étape, c'est celle de la fabrication dans une usine. Tu parlais d'Elon Musk, il a quand même transformé des chaînes qui fabriquaient des Tesla pour en faire des chaînes qui fabriquent des Optimus aujourd'hui. Mmh. Donc il y a vraiment une volonté, c'est pas le tout de dire d'inventer un robot qui sait bouger comme ci, comme ça, être intelligent ou pas, ou qu'il sera un jour, mais c'est aussi pour tenir la promesse d'Elon Musk de, je sais pas quoi, 1 milliard de robots, il faut les fabriquer, ces machines.
Mmh.
Voilà.
Et puis ça servira à sa conquête spatiale. Vaut mieux envoyer des robots que des humains, pour l'instant.
Ouais, surtout pour les premières fois.
Oui.
C'est moins risqué. Non, c'est clair. Je crois que ça fait partie de son plan. Hein.
Ah oui. Bien sûr.
Il va envoyer des robots Optimus bardés de capteurs pour voir comment, dans quel environnement ils vont vivre, la température,
pour
bosser, etc.
Pour construire les abris, tout ça.
Avec des cybercabs qui pourront les promener d'un cratère à l'autre.
Ouais. Fred, il est parti loin.
Non, mais c'est son objectif.
Évidemment, hein. Bien sûr. Non, mais c'est clair. Ça, hein. C'est clair. On est en train de se revoir Cosmos 99, c'est pour ça, avec Fred. Donc tu connais pas ?
Non. Commandant Carter.
Et oui, Jérôme est vachement plus jeune que nous. Hein. Il connaît pas Cosmos 1999.
Tu te rends compte,
tu connais Jérôme, tu te rappelles cette série ?
On regardait ça dans les fins des années.
Ouais, fin 70-80.
Ah, j'étais pas.
Et ça s'appelait Cosmos 99. On imaginait déjà qu'en 99, on vivait.
Ouais, voilà, c'est ça. Enfin bref.
Sur la Lune.
Là, ça fait un peu vieux. Mais c'est comme ça, attendez. Mais oui.
Vieux geek.
Vieux geek, exactement. Voilà. Il est 19h40, vous êtes sur BFM Business, Tech & Co, et on va rester en Chine avec cette bataille qui, elle, est beaucoup plus, on va dire, concrète. Hein, c'est la bataille des smartphones pliants. Alors, les smartphones pliants, ça fait des années que ça existe. Hein, Samsung avait été le premier à dégainer, on s'en souvient, il y a quasiment 10 ans maintenant, hein, le premier smartphone pliant. Et aujourd'hui, on arrive à maîtriser cette technologie. Elle est maîtrisée tant et si bien que Apple, visiblement, demain, devrait annoncer son premier smartphone pliant.
Va.
Je prends
tout
toujours
les paris
pincettes.
Sont ouverts. Ouais.
Voilà, c'est le conditionnel parce que rien n'est officiel et voilà, mais c'est vrai que on devrait avoir un smartphone pliant et avec un nouveau form factor. C'est ça aussi qui est intéressant parce que bon, des smartphones pliants, on en a tous vu. Soit ils s'ouvrent comme un livre et c'est des folds, donc c'est des gros bébés assez imposants, etc. Soit c'est des flips, mais ils sont tout petits. On dirait un peu les téléphones qu'on avait dans
à
clapper des années 80.
Soit tu agrandis l'écran, soit tu réduis l'appareil lui-même quand il est inutilisé. En fait.
Sauf qu'entre-temps, il est sorti un format un peu hybride qui s'appelle le format passeport. Et qui aurait été choisi d'ailleurs par Apple. Mais alors ce qui est amusant, c'est que quand Apple commande à Samsung des millions d'écrans de smartphones pliants en format passeport, Samsung se dit tiens, c'est peut-être pas mal, je vais en sortir un pareil. Et donc Samsung a volé la vedette avec d'Apple en sortant quasiment le même smartphone un peu avant. Mais ce qui est intéressant, c'est que même les Chinois se sont mis sur ce nouveau format, qui visiblement suscite l'intérêt et serait séduisant.
C'est logique, c'est Huawei et Xiaomi qui viennent de présenter les leurs, deux jours avant la keynote d'Apple, c'est incroyable.
Ouais.
Mais c'est logique parce que c'est pour dire, nous on est là, c'est pour attirer le regard. Et puis, en fait, si Apple véritablement lance ça, ils en profiteront. Si c'est ce form factor qui s'impose, imagine, je dis n'importe quoi, mais le lendemain de la keynote, des gens, s'ils se précipitaient dans les magasins pour dire « moi, je veux un smartphone comme ça », ils auront un Apple, mais ils auront aussi déjà des Android qui seront déjà là. Et quelque part, ça réduit un peu l'avance d'Apple, enfin l'avance qui est un retard malgré tout. Mais donc c'est amusant quand même.
Huawei, en fait, c'est pas le même form factor. Huawei, c'est un smartphone qui est en deux. Donc en fait, il y a trois écrans. Donc,
c'est pas le premier modèle, ils
en avaient
sorti un.
Et donc en fait, c'est encore plus impressionnant parce qu'on le plie deux fois, on le rouvre, ça fait une vraie tablette.
Oui.
Et là, c'est un peu les seuls, je crois, à le faire. Mais en tout cas, sur les smartphones pliants...
C'est Xiaomi qui sort le même form factor, visiblement.
C'est Xiaomi, juste pour les smartphones pliants, juste pour donner des chiffres, l'an dernier, c'est vendu à peu près 18 millions d'exemplaires de smartphones sur un marché qui est de 1,2 milliard de smartphones par an.
C'est un pouillème.
Donc, c'est vraiment très petit.
Parce qu'Apple n'était pas là.
Samsung domine. Oui, mais Apple, a priori, ils vont pas en fabriquer beaucoup. Des dernières rumeurs qui passent, c'est qu'il y aurait quelques milliers d'exemplaires disponibles au lancement parce qu'il y a des problèmes de fabrication. Non, ce qui est intéressant avec Apple, je pense qu'il y a le côté form factor et notamment, on sait qu'Apple a toujours parfois un avance sur le design industriel de ces iPhones. Moi, là où je les attends plus, c'est sur le design de l'interface utilisateur.
Ouais.
Parce que aujourd'hui, on est sur un smartphone. Quand on ouvre, on n'est plus sur une tablette. Et donc, on a des applications qui ne sont pas forcément optimisées pour les deux. Donc, à voir comment ça va s'organiser et comment ils vont faire la bascule du smartphone, de l'écran smartphone à l'écran tablette passeport. Donc là, je pense qu'ils ont un coup à jouer sur ça.
Et moi, je pense, par rapport à ce que tu dis, c'est justement tous les enjeux. Alors, autour de l'écran, visiblement, ils ont résolu, sur les modèles qu'on a pu voir, Xiaomi et tout ça, l'histoire de la charnière. Ouais. C'est vrai qu'on plie quand même l'écran. C'est pas fait pour être plié, un écran quand même, a priori. Donc là, ils y arrivent. Mais l'histoire de la batterie, parce qu'effectivement, si tu t'amuses à l'ouvrir, le fermer, l'ouvrir, le fermer, il va être sans cesse en train de redimensionner tout ça. Ça mange un peu de processeur. Donc moi, je serais curieux de voir comment ils vont s'en sortir sur la batterie. Le prix aussi, alors là, ça...
2200 à peu près, après. 2200 dollars.
Ça commence
le prix qui est sorti
même, même si on est allé sur l'iPhone, des iPhones haut de gamme dans ces prix-là, il y a un moment et puis la fragilité du
mais bon, évidemment, alors je peut-être que je me trompe, mais évidemment ça sera beaucoup d'argent, ça sera au minimum 2000 euros. Mais il y a des gens qui seront prêts à mettre 2000 euros dans ce type de téléphone. Je vous rappelle que, notamment en France, il y a des opérateurs qui subventionnent les téléphones. Donc un téléphone qui coûtera 2000, peut-être que vous l'aurez à 500 euros avec 60 euros d'abonnement sur 2 ans. Et c'est comme ça que ça fonctionne.
Tu le revends 1000 euros un an après.
En fait, l'iPhone, c'est étonnant. C'est un téléphone, beaucoup de gens, même des gens qui n'ont pas un train de vie hyper élevé, parfois s'offrent un iPhone parce que aujourd'hui ça devient indispensable. Si Apple arrive à rendre indispensable ce form factor d'un téléphone qui devient un iPad mini, finalement, c'est un appareil. Mais ça sera un produit 2 en 1. Ça va être intéressant de voir comment ça va se passer.
C'est justement, c'est là où ce qui va être intéressant demain pour Apple, c'est la façon. Enfin, s'il le présente, ce qui paraît quand même être vraisemblable, c'est la façon dont ils vont le présenter. C'est-à-dire, d'habitude, l'iPhone, voilà, on nous montre les nouvelles applications et tout ça. Là, ça va être, il va falloir l'ouvrir, ça va être les nouveaux modes applicatifs, ça va être l'usage, parce qu'il va falloir montrer aux gens que, voilà, l'usage.
Que ça sert à quelque chose.
Que ça sert à quelque chose, qu'on reprend les schémas tablettes, qu'on regarde des vidéos, enfin. Et ça va être intéressant, je pense, la façon dont tout ça va être présenté. L'architecture aussi intérieure, parce que, on a tellement, rappelons-nous que tous les téléphones, d'habitude, on cherche à tout diminuer. Là, on a un peu plus d'espace à l'intérieur. Donc, qu'est-ce qu'ils vont glisser de plus à l'intérieur, une batterie plus longue, enfin des choses comme ça. Non, c'est assez intéressant. Oui. Mais encore une fois, tu l'as dit François, c'est l'avance des Chinois, hein, parce que on l'a vu entre les mains ici, le Xiaomi qui se plie en 3. C'était pas un gadget.
C'est Huawei,
pardon. C'est Huawei. Et c'était pas un gadget. Mmh. Ils nous l'auraient laissé, on aurait dit, oh ben oui, tout de suite.
Les constructeurs chinois, les marques chinoises ont une assez mauvaise réputation parce qu'on les a accusés de copier. Mais aujourd'hui, les marques chinoises, elles font des téléphones qui n'ont rien à envier aux téléphones de Samsung ou d'Apple ou d'autres constructeurs. Donc, moi, je veux juste revenir sur l'iPhone. Je pense que ça restera quand même un produit de niche parce qu'à ce prix-là, à 2000, plus de 2000 euros, ça va rester un produit de niche. C'est un peu ce qui s'est fait avec le Vision Pro qui n'a pas marché. C'est que le Vision Pro, c'était un produit de niche, mais c'était de créer un marché, de créer un besoin, de créer des applications. Peut-être qu'il y aura des nouvelles types d'applications qui vont se créer parce que c'est un nouveau form factor. Et donc là, c'est vraiment le début d'essayer de lancer une machine et une fois, et potentiellement plus tard, de baisser les prix pour pouvoir le rendre plus grand public. Le problème, c'est que les prix des téléphones ne baissent plus parce qu'à cause des coûts de la mémoire et des coûts de composants électroniques. Et donc ça complique encore la tâche de ces téléphones.
Ça, c'est ce qui va compliquer sans doute la sortie des téléphones.
Moi, là où je les attends, c'est sur le poids. Parce que, mine de rien, les pliants
sont plus lourds.
Sont un peu plus lourds.
Bien sûr, mais oui.
C'est vrai que ça peut être un vrai problème. On peut avoir comment on appelle ça, je l'ai noté, c'est le iPhone picky, mais ça se fait aussi avec les gros iPhone Pro Max. C'est le fait de qu'on tient toujours le téléphone comme ça sur son petit doigt.
Ouais.
Et au bout d'un moment, ça fait une vraie douleur sur le petit doigt.
Une espèce de tendinite de l'iPhone, quoi.
Exactement.
Ouais.
Et avec un truc qui fait les smartphones pliants, ils font en moyenne 22 grammes de plus. Non, il faut entre 22 et 78 grammes de plus.
Qu'un téléphone normal.
Mais tu vois, moi je fais du sport avec mon iPhone. C'est le pliant.
Ça te ralentit, c'est pour ça que t'as des mauvais...
Non, mais je pourrais plus faire de sport avec un iPhone, quoi. Déjà, le 16, 17, tout ça, ça devient un peu volumineux. Mais il y a plein d'usages aussi où il va falloir faire attention à ça. Tu sais, les gens qui... Oui. Est-ce qu'on va revenir vers... Alors, on va télécharger sur sa montre, sur ses lunettes, peut-être. Mais ça aussi, c'est quelque chose...
En tout cas, il faudra le plier, hein, Fred. Tu cours avec le truc déplié, finalement, ça va te freiner.
Je le mets en musique. Mais c'est un truc tout bête, mais n'empêche que moi, tu vois, ça me freinera pour cet usage.
Et puis, on va être obligé, d'après ce que j'ai compris, et on en parlera longuement demain, mais il y aura des impasses aussi techniques, c'est-à-dire que visiblement cet iPhone pliant n'aura pas de Face ID. Il aura un Touch ID. Donc c'est quand même revient On régresse dans la manière de s'identifier avec le téléphone, parce qu'en fait le téléphone est tellement fin quand vous le dépliez que vous n'avez pas tous les composants de Face ID que vous pouvez intégrer. Les appareils photos seront moins bons aussi. C'était le cas de l'iPhone Air, tu te souviens, t'avais craqué sur l'iPhone Air, tu l'as toujours.
Enfin franchement,
oui, non mais c'est moins bon qu'un Pro Max qui va coûter moins cher.
Tu vois, donc en fait, pour tourner des films,
ça va créer aussi pas mal de dilemmes, je pense, parce que il y a les gens qui vont vouloir un smartphone pliant, un iPhone pliant, vont être obligés de faire l'impasse sur le Face ID, sur la qualité de l'appareil photo, et peut-être sur d'autres choses, aussi peut-être. Sur l'autonomie peut-être, mais voilà, ça, c'est assez intéressant.
Il va être nul alors ce truc.
La réponse, ce
la
sera
sorte
de
demain. Et puis c'est la première de John Ternus. Hein,
tiens, puisque, oui, alors voilà, ça sera la première de John Ternus, et ça sera la première aussi de ce Tech & Co, puisqu'on sera diffusé en même temps, et ça va rappeler des souvenirs à Jérôme, en direct sur YouTube, sur la chaîne YouTube de BFM Tech. On sera à la radio, à la télé, mais aussi sur YouTube pour que tous ceux qui sont sur YouTube puissent nous suivre et surtout nous laisser des commentaires. Comme ça, on pourra réagir en temps réel à tout ce que vous pourrez nous dire.
Pour nous rendre nos smartphones pliants pour voir encore plus.
Je suis pas sûr qu'on l'ait demain.
Non.
Allez, pour terminer, on va s'intéresser à l'annonce qu'a faite Emmanuel Macron. C'était aujourd'hui, je crois. C'est la création d'un festival international du
rire.
C'était hier soir, pardon. Voilà, du jeu vidéo. Festival international du jeu vidéo. Alors, un rendez-vous qui aurait pour ambition de devenir le rendez-vous mondial de la création, de l'innovation, des joueurs et de l'industrie. Il faut savoir que Emmanuel Macron aime beaucoup le jeu vidéo. Il a poussé pas mal tout ce qui était e-sport, etc. en son temps. Enfin, voilà, il se rend compte qu'il y a une vraie économie, une vraie industrie.
Ce sera un des succès de son...
Oui, c'est vrai, la tech, etc. Oui. Et il affirme aussi que le jeu vidéo doit entrer pleinement dans l'exception culturelle française. C'est aussi une information importante. Sauf que ça arrive dans un contexte un peu bizarre. Le marché du jeu vidéo se porte pas trop mal, mais il y a quand même plein de feux partout. Il y a trop de studios, il y a trop de jeux, il y a des modèles économiques qui ne tiennent pas, il y a
des salles d'affaires.
Voilà, il y a des studios qui ferment aussi. On voit que notre champion français Ubisoft est vraiment mal en point. On voit que Microsoft est en train de délaisser aussi la Xbox, enfin plus ou moins, mais on voit que c'est plus la grande fiesta d'il y a 10-15 ans. Et je voulais avoir votre avis là-dessus. Est-ce que c'est un effet d'annonce? Parce qu'on n'a pas beaucoup d'infos sur ce Cannes du jeu vidéo. C'est comme ça aussi qu'on pourrait l'appeler. Jérôme, qu'est-ce que t'en penses?
Non, mais j'en pense pas grand-chose à voir. Je pense qu'il reste pas beaucoup de mois avant l'élection présidentielle, donc je sais pas quand est-ce que ça va se passer, ou si son successeur...
C'est vrai qu'il y a aussi un problème de calendrier, parce que visiblement, ça devrait être au début de l'été prochain, donc après l'élection du nouveau président.
Voilà. Il y a l'annonce.
Oui, il y a l'annonce.
Il y a l'annonce qui compte.
Il y a l'annonce qui compte, mais sera-t-elle après exécutée un nouveau gouvernement? C'est ça qui est voilà, c'est la question qu'on peut se poser.
Tu disais nouveauté entre nous. Enfin, rien de neuf. Chirac a fait ça, un pôle de compétitivité sur les jeux vidéo, dirigé d'ailleurs par Nicolas Gaume à l'époque. C'était la région. C'est la région
Bordeaux.
Bordeaux, c'est ça.
Ouais, Nicolas qui était dans le jeu vidéo. Et qui sera avec nous dans le débrief spatial jeudi. Tiens, c'est rigolo que tu parles de lui.
Oui, en plus, j'ai vu
dans le planning.
Non, mais voilà. Donc, on l'a toujours voulu avoir ce pôle de jeux vidéo. Ça avait servi d'ailleurs parce que ça avait attiré pas mal de monde. Là, effectivement, moi, je suis un peu surpris. Alors, tant mieux si on veut relancer encore ce pôle de jeux vidéo. Mais je vais pas reprendre tout ce que tu as dit, mais à l'heure de l'IA, ça me paraît un peu bizarre. Je trouve qu'on aurait mieux fait de faire un jeu vidéo, essayer de voir comment on relie un peu tous ces univers. On en a parlé avec toi, François, la semaine dernière, avec Netflix, qui a investi énormément d'argent pour la bande-annonce de GTA. Et on se demandait, mais qu'est-ce qu'ils vont faire là-dedans? Et justement, c'est peut-être on aurait peut-être dû avoir un Cannes de la convergence vidéos, réseaux sociaux, films, tu vois, essayer de voir un peu, plutôt réfléchir à comment on peut unir tous ces univers plutôt que repartir uniquement sur le jeu vidéo.
Non, et puis surtout, enfin, je comprends pas quelle est la place de ce festival. En fait, on va, parce qu'au festival de Cannes, à la limite, on projette les films, donc il y a une raison d'être là sur place. On va faire quoi? On va projeter des jeux vidéo
au palais des festivals avec une PlayStation. Ça va être compliqué.
Le succès du e-sport.
Non, mais je veux dire, il y a déjà des événements jeux vidéo. Il y a déjà la Paris Games Week qui existe. Il y a d'autres événements partout dans le monde qui existent où on va jouer aux jeux vidéo. C'est quoi? En fait, là, j'imagine que c'est plus pour mettre en avant le côté artistique du jeu vidéo. Alors, on a des champions français. On a eu Clair Obscur qui a très bien marché, qui est français.
Oui, bien sûr.
Donc, j'imagine que c'est plus ça et c'est pour mettre en avant le côté artistique. Mais c'est vrai que c'est difficile à concevoir ce qu'on va y faire.
Pourquoi tu franchis pas l'étape d'après et tu essaies de trouver un truc beaucoup plus convergent avec plein de technologies, le sommet de alors il y aura de l'IA évidemment, mais tu vois d'y aller carrément, du robot, de l'IA, enfin tu vois un truc vraiment la nouvelle animation, tu vois, qui a trouvé ce terme.
Il y avait un festival, un truc à Cannes, on est allé plein de fois, François, sur le jeu vidéo.
C'était l'ancêtre de la Paris Games Week.
Ça s'appelait le SEL, c'est le syndicat.
Oui, mais l'organisateur. Je crois que ça s'appelait comme ça, non?
Je crois que ça s'appelait pareil.
Non, ça s'appelait pas le MIP quelque chose, le MIPCOM, quelque chose comme ça?
Oui, mais c'est vrai, tu as raison, on y allait,
Ouais, mais c'était plus business, hein.
Oui, c'était business.
Oui.
C'était business, mais c'était
très intéressant. Mais il y avait des annonces de nouveaux jeux, etc.
Oui. Et puis il y avait même les acteurs étrangers, hein. Il y avait Sony, qui était là, qui présentait des jeux en exclusivité. Il y avait Nintendo, etc., etc. Mais là, d'après ce que j'ai compris, c'est un peu écrit, enfin, mettre en avant la filière du jeu vidéo française. Mais moi, je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que ça arrive pas un peu tard? Il aurait fallu faire ça bien avant. On peut se dire que c'est justement parce qu'elle est un petit peu, elle tout saute, cette industrie-là, qu'il faut la relancer et qu'il faut la mettre en avant. Mais j'aurais fait ça peut-être un petit peu avant.
Les studios, enfin, les grandes équipes de développement, notamment à Dublin, enfin, en Irlande, c'était un carnage de licenciements et tout ça. Non, c'est un peu surprenant. Je dis, il aurait fallu pour moi viser plus large sur tout ce qui est animation.
C'est dingue le paradoxe du jeu vidéo quand même, parce que c'est une industrie qui pèse des milliards et des milliards. Et d'un côté, vous avez des studios français, on le disait, Ubisoft, qui passent vraiment un mauvais quart d'heure en ce moment. Et de l'autre côté, vous avez une attente incroyable sur GTA 6. Un jeu qui a coûté 2 milliards. On sait que ça va être un jackpot monstrueux. C'est quand même dingue. Netflix qui donne de l'argent pour avoir en avant-première, en exclusivité, pour quelques minutes.
6 heures.
Ouais, enfin 6 heures, c'est énorme quand même.
Qu'est-ce que c'est, l'échelle
6 heures d'exclusivité pour une bande-annonce d'un jeu vidéo que tout le monde
attend. Est-ce que vous l'avez regardé du coup?
Ouais,
parce que Netflix, on a fait la promo.
Je suis rentré dans. On en a parlé le soir même. Je suis rentré à la maison et j'ai regardé ce truc-là.
Oui, mais parce qu'ils l'ont lancé tout. Netflix a fait une super promo aussi.
C'est clair. C'est clair.
Juste François, pour répondre à ta question, en fait, le problème du secteur du jeu vidéo, c'est qu'on a un marché qui se fragmente entre des gros jeux, donc GTA, et puis des jeux qui sont Fortnite, tous les jeux qu'on appelle des Evergreen, je sais pas quoi. C'est-à-dire que les gens ne jouent qu'à ça, en fait. GTA 6, il est sorti il y a 10 ans, 13 ans, et GTA 5, et c'est toujours l'un des jeux qui se vend le mieux tous les ans.
Ouais.
Et donc, les joueurs se concentrent sur ces jeux vidéo-là et n'achètent plus vraiment forcément d'autres jeux. Et donc, le marché, il est toujours important, sauf qu'il est concentré dans les mains de quelques acteurs. Et tous les jeux vidéo, voilà, la fête d'acheter de plus en plus de jeux vidéo, il y en a moins.
Et puis la série a tué aussi jeux vidéo, parce que t'as les vrais fans de jeux vidéo, puis t'as ceux qui jouaient. Moi, le premier, hein, je jouais de façon assez, pas régulière, mais de temps en temps, j'aimais bien jouer. Aujourd'hui, plutôt que de jouer à un jeu, tu lances une série.
Ou tu joues sur ton smartphone,
en effet, c'est sûr.
Ou tu joues plus parce que tu regardes ces séries, justement.
Et puis, Pardon ? C'est l'âge. Les réflexes émoussent et tout.
Avec ton iPhone, le truc, tu peux pas jouer. Hein.
Non, mais puis il y a aussi le basculement. On abandonne les supports physiques. Je sais pas si vous avez suivi, mais bon, Sony a dit, il y aura plus de Blu-ray pour des jeux. Enfin, voilà. C'est une page qui se tourne.
Avec le pliant, on va peut-être retrouver
le jeu vidéo. C'est Anthony Morel.
Ouais.
Anthony me disait qu'il a un pliant. Et quand il joue beaucoup aux échecs, Anthony, sur son téléphone, et il m'expliquait que justement il prenait énormément de plaisir à ouvrir son téléphone. Il a un Pixel Fold pour jouer aux échecs en ligne.
Lucas Perraudin, qui vient souvent aussi, lui, il veut plus revenir en arrière.
Moi, je suis un peu fâché avec le jeu vidéo.
Ah.
Non, mais en plus, je trouve que ça a été, il y a eu des histoires dégueulasses là qui sont sorties partout, entre les histoires de harcèlement dans le studio, entre les streameuses qui se font harceler en ligne, etc. S'il y a aussi une espèce de, ça draine aussi une espèce de mauvaise ambiance.
Mmh. C'est dommage. Comme le début, enfin la fin du jeu, mais
il n'y a pas que ça, bien
comme
sûr.
Les cryptos, on dit toujours les cryptos, c'est forcément de l'argent sale. Enfin, c'était, il y avait c'était.
Ouais.
Du côté un peu sulfureux.
Bien sûr, il y a des gens très bien qui jouent aux jeux vidéo, mais il y a eu, ça a drainé aussi toute une espèce de je sais pas, de
masculinité toxique.
Pas très positif. Oh. Comment?
De masculinité toxique.
Ah, ouais, de bah masculinité oui, toxique. Hein. De...
Non, mais ouais, c'est vrai. Enfin, il faudrait questionner des joueuses, elles, si elles ont toujours envie de jouer.
Tu vas sur le magnifique forum jeuxvideo.com, ça existe toujours, ça?
Ah oui, bien sûr.
Au lieu de la culture française.
Ouais. Du débat intellectuel.
Tellement...
Eh bien voilà, bah, écoutez, merci beaucoup à tous les trois. J'ai bien compris que Jérôme ne jouerait pas aux jeux vidéo tout de suite. Tu joues toi un peu Jérôme ou pas?
Avec ma fille surtout.
Avec ta fille, bah, c'est mignon. Ouais. C'est, mais ça aussi c'est sympa.
Bah, à force,
on se retrouve.
Lego là au moment j'en ai marre.
Merci beaucoup Jérôme. Jérôme Marin, fondateur de cafetech.fr. Allez jeter un œil sur sa newsletter. Abonnez-vous, vous verrez, vous ne le regretterez pas. Si vous le regrettez, vous nous le dites. Voilà, et on s'excusera. Jérôme Colombin.
Oui.
Monde numérique. Plein de choses,
plein de trucs. Un inventeur d'une main robotique.
Made in France.
Il a fabriqué tout seul sa main robotique qui est super perfectionnée. Il l'a fait toute seule dans son garage. En France, c'est un Français.
Jérôme a pris demain matin.
Jérôme a pris une claque quand il a vu
une
ça.
Une claque robotique.
Et, non, juste, Jérôme, à l'heure où on parle du classement PISA, je vous recommande sur Monde Numérique l'interview de Boris Valbaum.
Que c'est gentil, oui.
Boris Valbaum. Forward College. Super interview, ça dure 26 minutes.
Sur l'école. Hein,
sur l'école et tout ça, l'éducation. Et à l'heure où on parle du classement PISA qui nous classe, voilà. Bah, c'est plutôt pas mal d'écouter un peu ce qu'il a à dire et c'est plutôt intéressant.
Ouais, parce que là, le classement PISA, pas très bon. Hein.
Mais je conseille aussi, évidemment, parce que je la lis tous les jours.
Non, mais vous arrêtez. Ça va.
Tech & Co, la quotidienne. Best of sur BFM Business.